Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Au sommaire, la première audience générale de l'année, le pape François insiste sur l'importance du baptême et invite les fidèles à faire fructifier la grâce de ce sacrement en étant des signes de l'amour du Seigneur pour tous. Les évêques français préoccupés par le climat de violence dans la société, Monseigneur Pontier s'est exprimé mardi soir à sa sortie de l'Élysée après la cérémonie traditionnelle des vœux. Autre source d'inquiétude, la différence de traitement entre les principales religions de la part des autorités de l'État. Dans cette émission, nous reparlerons également du chapitre général des Légionnaires du Christ, réunis pendant plusieurs semaines à Rome, et de l'augmentation des persécutions contre les chrétiens dans le monde. Le baptême n'est pas un simple rite ni une formalité, c'est un sacrement nécessaire qui change la vie de ceux qui le reçoivent. Le pape François l'a affirmé ce mercredi à l'occasion de la première audience générale de l'année 2014. Le Saint-Père a entamé un nouveau cycle de catéchèses consacré au sacrement. En ce lendemain de fête, il n'y avait que quelques 10 000 personnes sur la place Saint-Pierre, parmi eux les jeunes prêtres du diocèse de Poitiers, Jean-Baptiste Cocagne.
Certains peuvent se demander s'il est vraiment nécessaire d'être baptisé pour vivre comme des chrétiens et suivre Jésus. La plupart d'entre nous n'a pas le moindre souvenir de la célébration de ce sacrement. Parfois, il s'agit juste d'un événement du passé, indépendant de notre volonté et n'ayant aucune influence sur notre vie. D'où la nécessité de réveiller notre mémoire du baptême, de ce que Dieu a fait en nous, du don que nous avons reçu. Citant saint Paul, le pape François souligne que le baptême est un acte fondamental qui touche notre existence en profondeur. Avec cette familiarité qu'il a rendue populaire, il a demandé aux fidèles de s'efforcer, en rentrant chez eux, de retrouver la date de leur baptême. Après le baptême, dit-il, nous ne sommes plus les mêmes. Par ce sacrement, nous sommes plongés dans la vie et la mort de Jésus, le plus grand acte d'amour de toute l'histoire, et nous pouvons vivre une vie nouvelle sans être livrés au péché et à la mort. Il faut donc vivre le baptême dans notre vie de tous les jours. C'est grâce au baptême que nous parvenons à suivre Jésus et à demeurer dans l'Église, malgré nos limites, nos fragilités et nos péchés. C'est en vertu du baptême que nous portons une espérance nouvelle, que nous sommes capables de pardonner et de reconnaître dans les pauvres le visage du Seigneur. Avec l'Eucharistie et la confirmation, le baptême fait partie de l'initiation chrétienne, un seul grand événement sacramentel sur lequel se fonde notre foi et qui nous greffe sur le Christ et son Église.
Cette première audience générale de l'année a été marquée par la présence festive d'artistes du cirque. Des jongleurs et un équilibriste se sont exhibés avant le Notre Père. Un petit spectacle coloré de quelques minutes qui a beaucoup plu au pape François. Le souverain pontife a appelé les artistes à être des messagers de joie et de fraternité dans une société qui en a tant besoin. Et après l'audience générale, le Saint-Père s'est entretenu en privé avec le nouveau secrétaire général par intérim de la conférence épiscopale italienne, Monseigneur Nunzio Galantino. Il l'a lui-même nommé à ce poste il y a quelques jours en remplacement de Monseigneur Mariano Crociato, muté à la tête d'un petit diocèse de la région de Rome. Le choix de cet évêque du sud de l'Italie, très engagé dans le domaine social, a été perçu comme un tournant qui annonce des changements au sein de l'épiscopat italien, le seul épiscopat dont les responsables sont encore nommés directement par le pape, évêque de Rome. Les persécutions contre les chrétiens ont augmenté partout dans le monde en 2013. C'est le principal constat de l'index mondial de la persécution publié ce mercredi comme chaque année par l'ONG protestante Portes Ouvertes. Un classement qui rassemble les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison de leur foi. Il serait ainsi près de 150 millions de par le monde à être discriminés, physiquement menacés ou pourchassés. Et cette année, comme l'explique Michel Varton, directeur de l'ONG Portes Ouvertes, l'index a mis en avant quatre tendances principales.
La première tendance est donc cette augmentation générale de la persécution autour du monde. Seulement quatre pays ont vu une amélioration, c'est le Mali, la Tanzanie, les Émirats et la Mauritanie. Tous les autres pays de notre index sont soit restés la même chose que l'année précédente ou bien ont vu une augmentation de persécution. La deuxième chose qui nous frappe, c'est ce que nous avons déjà annoncé l'année dernière, c'est-à-dire le pays du printemps arabe ne voit pas un printemps pour l'Église, mais en fait plutôt un hiver pour l'Église. Deux pays qui sont vraiment très frappants, c'est la Syrie, qui passé de 36e place il y a quelques années à aujourd'hui 3e place dans l'index, la Libye qui passe aux 13e place, l'Égypte où on a vu vraiment une augmentation très sérieuse de violence, elle est 4e au niveau de la violence contre l'Église. Ensuite, toute la situation dans les pays de l'Afrique subsaharienne, où c'est devenu vraiment le nouveau champ de bataille pour l'Église. 18 pays africains dans l'index de persécution. Et finalement, c'est tout un constat, c'est que les pays en faillite, donc les pays en déliquescence, c'est là où l'Église est souvent persécutée.
Donc vous avez parlé des pays africains. En 2013, il y a 5 pays africains qui sont entrés dans le classement. Comment ont-ils évolué ?
La première chose, c'est que la Centrafrique paraît pour la première fois. Donc la Centrafrique où les chrétiens ont subi de plein fouet l'invasion de la Séléka, les pasteurs et les prêtres visés, les églises détruites, les femmes violées. Donc vraiment une attaque contre l'Église lors de l'invasion de la Séléka. Ensuite, des pays comme le Nigeria ou dans le nord du pays, à cause de Boko Haram, les chrétiens aussi vivent une violence extrême. C'est vraiment d'un côté jusqu'à l'autre côté de l'Afrique, toute la ligne qui suit le Sahel, de partout il y a des persécutions contre l'Église.
Quels sont les pays qui sont sortis du classement ?
Il y a 3 pays qui sont sortis des 50 premiers pays, Azerbaïdjan, le Kurdistan et l'Ouganda. Mais en fait, ce n'est pas parce que la situation s'est améliorée dans ces pays, c'est plutôt le fait que d'autres pays sont entrés dans l'index, puisqu'on prend simplement les 50 premiers pays, mais la situation ne s'est pas améliorée pour ces 3 nations. Et en fait, si on regarde vraiment la situation autour du monde, on peut plutôt compter une 60aine de pays où on peut parler de la persécution.
Vous avez remarqué donc dans cet index mondial de persécution que l'islamisme est largement responsable de la persécution endurée par les chrétiens. Est-ce que vous avez quand même des exemples où la cohabitation entre les musulmans et les chrétiens se passe bien ?
Je pense que, par exemple, la Jordanie, où pour l'instant, l'Église a une place et on ne parle pas d'une persécution forte contre l'Église. En général, la cohabitation entre l'Église et l'islam est difficile. Elle est tolérée, mais souvent mise en deuxième place dans la société. Et la difficulté la plus grande, c'est pour des musulmans qui quittent leur foi, parce qu'il y en a qui veulent devenir chrétiens et qui vivent à ce moment-là une persécution très très difficile.
Donc après le printemps arabe dans certains pays musulmans, vous avez parlé d'hivers chrétiens. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Justement, donc la Syrie, qui est aujourd'hui en 3e place sur l'index, la Syrie où il y a en effet une guerre civile, mais il y a une deuxième guerre au sein de cette guerre civile. Et ce qui est très frappant, et ce que nous apprenons de nos contacts dans le pays, c'est que les islamistes visent souvent les quartiers chrétiens, visent les églises, et c'est une façon de vider le pays de la présence chrétienne qui est là depuis les premiers siècles, depuis l'apôtre Paul. Donc l'Église a vraiment l'impression qu'elle est la victime par défaut, la victime silencieuse de ce conflit, et que beaucoup de chrétiens fuient le pays. Et la grande crainte, c'est que on voit ce qu'on a vu, par exemple, en Irak, où il y a une dizaine d'années, il y avait 1 300 000 chrétiens. Et il n'y reste aujourd'hui que 250 à 300 000. Il y a un pasteur égyptien qui m'a dit, il y a juste quelques semaines, il a dit, si l'Église en Égypte n'a pas le droit d'exister et ne peut pas vivre sa foi dans la paix en Égypte, ce n'est pas simplement une tragédie pour l'Égypte, mais aussi il y aura des conséquences pour l'Occident.
Quelles pourraient être les raisons qui pourraient expliquer la hausse de ces persécutions contre les chrétiens ?
Parce qu'il n'y a pas une seule cause. Justement, l'islamisme est un moteur, mais il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres religions, par exemple, il y a dans les pays en Inde, l'Église souffre à cause de l'agression des hindouistes radicaux aussi. Au Sri Lanka, qui est un pays qui est entré dans l'index pour la première fois cette année, ça vient du bouddhisme. Donc l'islamisme n'est pas le seul moteur. Dans d'autres pays, comme la Corée du Nord, c'est la dictature paranoïaque. Et aussi, simplement, la criminalité. En Colombie, l'Église souffre dans les régions qui sont sous contrôle du FARC. Et c'est les narcotrafiquants qui sont en fait ceux qui attaquent et persécutent l'Église parce que l'Église représente une force contre la criminalité.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que les chrétiens sont la minorité la plus persécutée dans le monde aujourd'hui ?
C'est vraiment l'impression que nous avons. C'est toujours difficile de donner un chiffre précis. Mais quand on compare nos chiffres avec ce que d'autres associations associations, d'autres instituts de recherche disent ailleurs dans le monde, comme le Pew Forum, c'est très évident que malheureusement aujourd'hui, c'est l'Église qui est la minorité la plus persécutée.
Michel Varton, directeur de l'ONG Portes Ouvertes, interrogé par Audrey Radondi. Manifester de la considération aux juifs et aux musulmans ne doit pas conduire à négliger les chrétiens. C'est la mise en garde lancée par l'évêque d'Évry dans les colonnes du quotidien français La Croix. Monseigneur Michel Dubost a réagi aux inquiétudes manifestées par certains catholiques français quant à une différence de traitement entre les principales religions de la part des autorités de l'État. Hélène Détombe.
Des cloches qui ne doivent plus sonner, des sapins, des Pères Noël, des crèches ou des galettes que l'on ne veut plus voir au nom de l'égalité de traitement entre les religions. Si la laïcité nie ceci, alors elle oublie notre histoire, avertit le président du Conseil pour les relations interreligieuses de la Conférence des évêques de France. Tout en reconnaissant que la situation actuelle est difficile à gérer pour les élus, il estime que la laïcité ne doit pas conduire à nier certaines coutumes françaises d'origine chrétienne. Dans les cabinets ministériels, beaucoup de personnes sont sensibles à l'islam et au judaïsme parce que s'y rattachent des questions délicates. En revanche, personne ne pense tellement aux catholiques. Selon Mgr Dubost, on risque de favoriser l'extrême droite en niant la culture française. Il faut au contraire partir d'elle pour que les Français ne se sentent pas dépossédés. Beaucoup de musulmans sont français, note-t-il. Nous devons les accueillir, les respecter, leur montrer qu'ils ont de l'importance pour nous, les saluer au moment de l'Aïd par exemple, mais pas au détriment de notre identité historique. Sinon, nous fabriquons des gens toutes griffes dehors.
La question de la laïcité a également été évoquée mardi soir en France au cours de la rencontre traditionnelle des vœux entre le chef de l'État et les autorités religieuses du pays. L'entrevue qui s'est déroulée à huis clos a duré une heure environ. Le président de la République est rapidement revenu sur les événements qui ont marqué 2013 avant d'évoquer la laïcité, justement la situation internationale, notamment en République centrafricaine, au Mali et en Syrie, et la reconnaissance des religions dans la vie du pays. François Hollande a également assuré qu'il consulterait les représentants des religions sur les questions bioéthiques, notamment sur la fin de vie et sur la procréation médicalement assistée. Chacun des représentants a ensuite pu exprimer ses propres préoccupations. Interrogé par les journalistes à la sortie sur le perron de l'Élysée, Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France, a indiqué avoir mentionné l'importance de la place des religions dans la construction du tissu social, ainsi que sa préoccupation causée par le climat de violence dans la société, une violence nouvelle, sans bornes et sans limites. Interrogé quant à lui sur l'affaire Dieudonné, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, a évoqué une nécessité de réfléchir sur la manière dont notre culture est entraînée dans la provocation et la dérision. En Côte d'Ivoire, le porte-parole du Forum des confessions religieuses a exhorté lundi tous les Ivoiriens à œuvrer à la restauration de la cohésion sociale afin que l'année 2014 soit celle d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Selon Mgr Alexis Touabli, il est nécessaire et urgent de rétablir la confiance et d'encourager la fraternité au-delà des considérations d'ordre ethnique, régional, politique ou religieux. L'évêque catholique présentait au président Alassane Ouattara les vœux des confessions religieuses du pays. Des défis restent à relever en matière d'emploi des jeunes, de lutte contre la délinquance juvénile et la drogue, ainsi que pour une justice sociale. Après 3 ans de mise sous tutelle, la congrégation des Légionnaires du Christ entame son chapitre général extraordinaire. Une congrégation fortement ébranlée par les révélations sur la vie dissolue du fondateur, Martial Maciel. Sous la responsabilité du délégué pontifical, le cardinal Velasio de Paolis, les 61 prêtres délégués venus principalement des Amériques procéderont durant les 3 prochaines semaines à la rédaction des nouvelles constitutions et ils devraient élire une nouvelle direction à la fin du mois. Les Légionnaires du Christ espèrent que la refondation canonique attendue leur permettra de retrouver leur autonomie et leur crédibilité. Le père Thomas Branty, assistant du provincial pour l'Europe occidentale, nous dit quelles sont les attentes de sa communauté.
C'est un moment qu'on attend vraiment avec beaucoup d'impatience, parce que c'est vrai qu'on l'a préparé depuis maintenant 3 ans et demi. On s'est retrouvés très régulièrement les maisons pour tout revisiter en fait dans notre règle de vie. On se revoyait tous les mois avec un moment de prière, un moment d'étude, avec évidemment une énorme réflexion et très profonde sur ce que, pour chacun, les révélations qui ont concerné le fondateur ont pu signifier. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, ça a voulu dire de vraiment se recentrer sur la personne de Jésus, quoi, de fixer notre regard sur Jésus et se dire que c'est pour lui, finalement, qu'on est là. Et c'est pas pour un fondateur, c'est pas pour une personne qui va, quoi, c'est pour le Christ. Donc je pense que c'était dans un sens une purification. Et donc on est un peu au bout du chemin et on regarde le futur, voilà, plein d'attentes, quoi, pour la suite, hein, pour un nouveau départ, quoi, de la communauté. La grande majorité des membres de la communauté, on attend aussi que le chapitre se prononce ou se reprononce sur la manière dont on se situe par rapport aux fondateurs. Je suppose qu'il y aura un peu un renouvellement d'une demande de pardon de la part de la congrégation pour les victimes directes du fondateur. Bien sûr, on a tous souffert de ce qui a été vécu ces dernières années. Quand on est rentré, on s'imaginait pas du tout que des choses comme ça avaient pu se passer. Enfin, je parle de ma génération, mais je pense que les plus vieux aussi. Voilà.
Et alors justement, quel est aujourd'hui le regard porté sur la personnalité, sur l'œuvre du Père Massiel ? Est-ce que vous considérez qu'il y a du bon et du mauvais dans son œuvre, dans sa personnalité ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il lui a fait est en quelque sorte enfoui ou censuré ?
Dire que tout ce que lui a fait est enfoui... Ce serait un peu mentir, puisque la congrégation, elle a été fondée par lui et elle subsiste encore. Par contre, évidemment, on a voulu tout remettre en question pour que tout ce qu'on vit, ça puisse être vraiment dans la tradition de l'Église, et puis voir ce qui, dans notre mode de vie, a pu être justement modifié, altéré par la personnalité du fondateur. Donc c'est vrai que des grands thèmes sur lesquels on a réfléchi, c'est... la liberté intérieure, c'est la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres, c'est bien sûr une charité très authentique, c'est dans l'exercice de l'autorité une responsabilité mutuelle, que la responsabilité soit pas juste du côté des supérieurs, mais que voilà, chacun se sente partie prenante dans la vie de la communauté.
Quelle a été la méthodologie employée? Comment les communautés ont travaillé depuis les visites apostoliques et la nomination du délégué pontifical?
On a relu en fait toutes nos, ce qu'on appelle les constitutions, c'est la règle de vie. Tous les ordres religieux ont des constitutions, hein, depuis Saint-Benoît. Une des choses que le cardinal de Paulis a demandé, le délégué pontifical, en fait il disait c'est, vous n'êtes pas obligé de tout mettre par écrit, et en fait toutes les normes de vie n'ont pas la même importance. Donc le fait que vous viviez et que vous professiez les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, ça c'est une chose, c'est quelque chose de très ancré dans la tradition de l'Église. Après, le fait que vous leviez à 5h15 ou à 5h25, ça, bah, chaque maison peut le décider. C'est pas la peine de l'écrire dans les constitutions. Donc ça, c'était une première chose qu'il a demandé de faire, de savoir distinguer entre ce qui est essentiel et puis ce qui est secondaire. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a pris les constitutions qui existaient, qui avaient été approuvées par Jean-Paul II en 83. On a vraiment relu la règle dans son intégralité. C'est pour ça que ça nous a pris quand même assez longtemps. On se retrouvait en maison, donc en petit groupe d'une quinzaine de frères. Chacun faisait part de ses réflexions, de ses suggestions, de ce qu'il il pensait que on devait changer, améliorer, etc. Et puis on faisait remonter ça au niveau provincial, et ensuite il y avait une commission provinciale qui faisait remonter ça à Rome, et puis à Rome la commission centrale l'étudiait, et puis il y a eu plusieurs allers-retours en fait jusqu'à maintenant.
Et qu'est-ce que vous répondez aux anciens qui accusent la Légion de ne se lancer que dans un simple toilettage aujourd'hui et non pas une vraie refondation?
C'est pas tous les anciens qui disent ça. Je pense que justement ils nous mettent au défi, ils nous disent si vous voulez être authentique, il faut faire une vraie réflexion. Et donc, on leur dit merci de nous mettre au défi. Et on espère que ce chapitre général, tout ce qui a précédé d'ailleurs, que ces 3 ans et demi de réflexion vraiment profonde et puis d'examen de conscience, de prière, etc., que ça n'aura pas été en vain, que ça aurait été une vraie réforme. Et je pense aussi, et j'espère que la réforme et la conversion ne va pas s'arrêter là. J'espère qu'on va continuer chacun personnellement, mais aussi comme institution, on va continuer à se convertir constamment, quoi, pendant le chapitre général, mais aussi après le chapitre général.
L'assistant du provincial des Légionnaires du Christ pour l'Europe occidentale, interrogé par Cyprien Viette. La messe d'ouverture a été célébrée ce mercredi soir. Les travaux proprement dits commenceront jeudi matin. Selon les associations anti-pédophilie, le changement en profondeur n'a pas eu lieu parce qu'une partie des dirigeants de l'ère Massiel sont restés. Certains aimeraient que la congrégation soit carrément dissoute ou refondée sous un autre nom. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet à l'adresse radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.